Bonjour, je m'appelle Claude Fauquet, j'étais le responsable technique de la délégation olympique à Londres et je voudrais vous faire partager une réflexion.
Et qui a fait une séance sur,
oui,
sur la natation.
Sur la natation, parce que j'étais.
Comment fonctionne un sportif ? Je vous conseille la lecture de ce texte.
J'étais précédemment directeur technique national de la Fédé de natation, donc c'est un sportif parmi vous. Les questions que vous posez, elles traversent le monde du sport déjà depuis une dizaine d'années. Avec, je crois, derrière tout cela, une certaine conception de l'homme et une certaine conception de la performance. On a cru, à un moment donné, très fortement, que l'on pouvait résoudre la performance humaine à un certain nombre de facteurs. Facteurs psychologiques, facteurs sociaux, facteurs, etc., affectifs, tout ce que vous voulez. Et il aurait suffi d'être excellent dans chacun de ces secteurs pour être le plus performant au monde. Et ça a donné le développement d'outils pour chacun de ces secteurs. Un exemple, dans la délégation olympique d'Atlanta, il y avait 90% d'entraîneurs et 10% de spécialistes. Dans la délégation olympique de Londres, il y avait 50% d'entraîneurs, 50% de spécialistes. Spécialistes, conditions physiques, préparation mentale, tout ce que vous voulez. Et si on regarde les résultats français aux Jeux olympiques à Atlanta, qui est le record du nombre de médailles, jusqu'à Londres, où on a un peu redressé la barre, en développant systématiquement l'idée que chacun des facteurs est important, on est devenu de moins en moins bons. C'est-à-dire 16 titres olympiques à Londres, avec 90% d'entraîneurs, et 7 médailles olympiques, 7 titres olympiques à Pékin, par exemple, avec 50% de spécialistes. Donc la question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce que effectivement ce n'est pas une mode et qu'à la fin, l'aspect qualitatif dont on parle tout à l'heure va forcément réapparaître quelque part parce qu'il me semble fondamental pour être performant. Donc la question de la relation, moi, me semble fondamentale à poser et pas la relation seulement d'un point de vue des réseaux sociaux, le point de vue de la relation et du sens que chacun donne à son action à l'endroit où il est pour porter un objectif commun.
Quand j'étais petit, j'étais quand même abasourdi par une chose, c'est qu'Adidas finançait à la fois les champions du monde et les derniers de la classe. J'ai l'impression que si la France est tombée dans ce travers, c'est parce que tous les pays qui avaient plus de médailles que la France étaient tombés précédemment dans ce même travers. Donc je n'ai absolument pas de réponse, et certainement pas sur un domaine que je connais finalement si peu, mais est-ce que par hasard on n'est pas toujours un petit peu à la traîne? Et quand en plus on le maîtrise mal, quand on ne fait qu'imiter des autres sans bien le comprendre et sans savoir qu'effectivement, il y a quand même un aspect global qu'il ne faut pas perdre, est-ce qu'on n'a pas les résultats qui sont ceux que vous dites? S'il n'y avait eu qu'une dérive de la délégation française, la réflexion serait très troublante. Il me semble qu'elle était précédemment déjà bien développée partout, et pour ne parler que des aspects technologiques, car j'imagine qu'il y avait aussi d'autres choses.
Si je me rappelle bien, ce que vous avez dit sur comment vous avez remonté la natation française, c'est en partant de l'idée qu'un nageur, ce n'est pas seulement des capacités physiques, des capacités de respiratoires, etc. Un champion, c'est une personne et c'est un projet. Et quand cette personne est dans une disposition d'esprit, veut absolument gagner, il gagne, c'est ça? Et que le reste, ce n'est pas secondaire, mais ça passe après. Autrement dit, pour vous, c'est d'aller au-delà du quantitatif qui a été votre projet. Et peut-être que vous avez raison, puisque après, l'équipe de France a extrêmement bien réussi. C'est un petit peu ça le sens de votre question. Mais Michel Rouget a la réponse, alors on va lui passer le micro.
Étiez-vous aux assises de l'économie du sport chez Sportsora la semaine dernière? Parce que Liz Nicol, la Britannique qui a remonté le sport olympique britannique à partir d'Atlanta, nous a très bien expliqué. Et il est vrai que, bon, le matin, Alain Bernard était passé, on a beaucoup parlé de natation, mais il y a un énorme décalage dans la conception des objectifs olympiques entre les Français et les Anglais. Ça, c'est un fait. Et c'est ce décalage qui fait qu'on se pose la question. Bon, je n'insiste pas, mais ayant eu l'occasion de faire un ouvrage sur l'avenir du sportif d'élite il y a 8 ans, comme un autre ouvrage sur le harcèlement numérique l'année suivante. Bon, je me suis permis d'apporter cette réponse, mais j'arrête.
Marc Mousseli.
Oui, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire partir de l'entreprise. Quand vous avez cette espèce d'économie de l'offre où on offre des milliers d'apps dont quelques-unes sont extrêmement utiles, bon, je me dis, quand j'étais il y a quelques années DRH et que je faisais les tournées de CHSCT, j'aurais aimé sans doute avoir à côté de moi un ou deux concepteurs d'apps en leur disant « Dis donc, tu peux pas me trouver un truc pour ça, un truc pour ça ?» Parce que en aparté avec ma voisine, on disait « Mais il y a un décalage considérable entre... » Ce que vous nous exposez, je suis à fond là-dedans, hein. J'ai l'iPad dans la poche, j'ai tout, j'ai l'iPhone, je suis toujours dessus. Et la réalité de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire que dans mes tournées CHSCT, alors j'en ai pas fait depuis un moment, hein, qu'est-ce qui revenait tout le temps? Les paquets de fils entre l'ordinateur et puis les prises, hein, où les gens se prennent les pieds tout le temps. Hein, alors qu'on a tout fait d'ailleurs pour qu'on puisse les ranger sous les bureaux, etc. Il y a bon. Qu'est-ce qui revenait tout le temps? On parlait des écrans. Les gens qui sont toujours en train de lever la tête vers l'écran, alors qu'ils devraient avoir les yeux en haut de l'écran. Des trucs qui sont d'une trivialité extraordinaire par rapport à la créativité que vous nous présentez. Donc, c'est pour ça que je disais, ce serait formidable de pouvoir faire sa tournée CHSCT avec un type vachement astucieux qui puisse mettre en branle quelques développeurs d'app, hein, et partir donc des problèmes qui sont des problèmes extrêmement triviaux, très simples, etc., et développer quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas une question de cahier des charges sophistiqué. Hein. C'est tout bêtement partir de l'observation de la réalité et essayer de trouver des trucs.
Ça s'appelle un magiciel, non? Il y a plein de choses. La vraie question, parce qu'on va parler de l'aspect quantitatif, qualitatif, l'informatique s'est développée exclusivement au départ parmi les entreprises, c'était elles qui avaient les moyens de payer. Et donc, il y avait évidemment, au départ, sur les fonds baptismaux de l'informatique, des idées de contrôle, de productivité, etc., etc. Il y avait des lendemains qui chantaient. Et forcément, devant de tels lendemains qui chantaient, les uns et les autres étaient sommés de faire tout ce qu'il fallait, comme on l'avait conçu. Les gens passent leur temps à faire ce qu'on n'a pas envie qu'ils fassent, à laisser des fils alors qu'ils ont tout pour les ranger. Enfin, bon, ça, c'est un vrai sujet. Les technos qu'on a évoqués, certes, peut-être qu'il y a du quantitatif, mais elles partent d'un prérequis très différent. C'est, on va arrêter de parler des lendemains qui chantent, on va essayer de donner aux gens les moyens de se changer eux-mêmes pour autant qu'ils le désirent. Et ça, c'est quand même vraiment un changement tout à fait radical. Pas comparer ça avec un ERP qui fait exactement le contraire sur son fondement.
À ce moment-là, alors on se dit, que fait la Sécu? Parce que si ce que vous avez dit est vrai, on va pouvoir diminuer les problèmes de cardiaque. Il y a tellement de gens en mauvaise santé et l'obésité est quelque chose qui progresse. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir, ou la Sécu ou les mutuelles, des programmes astucieux pour encourager, voire même donner envie aux gens de faire, de bouger, de manger, de faire tout ça? Ce serait un gain considérable pour la Sécu. Et quant aux États-Unis, quand on balade aux États-Unis ou en Australie, j'étais récemment, le nombre d'obèses est tel qu'on se dit qu'une manière astucieuse de diffuser ces petites apps aux bons endroits pourrait être un enjeu de santé publique absolument considérable. Mais le problème, c'est qu'évidemment, ça ne vient pas des gens, ça vient des organisations. Est-ce que vous avez vu des mouvements se dessiner de cet ordre? Si ce que vous avez dit est vrai, ça pourrait être un enjeu absolument considérable.
Alors, c'est un vrai sujet. En fait, il y a eu des études assez intéressantes menées aux États-Unis sur, par exemple, comment motiver les gens à arrêter de s'alimenter de manière néfaste à leur santé. Et donc, on s'est rendu compte que si jamais on leur fait peur en leur montrant, écoutez, voilà la tête que vous allez devenir rougeau, ça va être absolument terrible, vous n'allez plus pouvoir vous déplacer, sortir de votre appartement, ça va être atroce. Les gens, ça les motive, mais en fait, au bout de quelques semaines, eh bien, ils reprennent leurs anciennes habitudes. Si on leur fait peur, si on leur montre ce qui va se passer, on n'aboutit pas à des changements qui sont durables. Donc ça, c'est un premier élément. En revanche, on s'aperçoit que si on les motive en leur disant « Écoutez, si jamais vous mangez plus sainement, vous bougez, etc., vous allez vous sentir plus léger, vous allez améliorer votre bien-être, vous allez devenir attirant, etc. » Eh bien là, on réussit à faire changer le comportement des gens. Bon, là, je pense que c'est une question de nature humaine. Alors, il y a peut-être une question de culture, mais c'est pour ça déjà que le bien-être est la bonne manière d'aborder un certain nombre de problématiques de santé. Ensuite, c'est vrai qu'aux États-Unis, ces programmes de bien-être qui ont été déployés à vaste échelle dans plus de la moitié des entreprises sont liés à l'augmentation de 50% des frais de santé observés ces dernières années. Et donc, eux voient qu'ils vont directement dans le mur. Et nous, sans doute, on va réussir à s'en rendre compte dans peu de temps. On va les rattraper. Alors, il y a quand même un pays qui a réussi, semble-t-il, à freiner, voire à stopper l'épidémie d'obésité. Donc, c'est la Finlande qui a interdit de manière drastique toutes les publicités pour les sodas, qui a pris des mesures tout à fait répressives par rapport au secteur agroalimentaire. Mais actuellement, je ne pense pas qu'on soit dans une configuration où on ait un pouvoir politique qui ait le pouvoir de faire ça. Alors, il y a quand même, on parlait de surveiller et punir, et je continue sur le même sujet, on peut se poser la question, voilà, il y en a plein de gens obèses parmi nous, pas très sportifs, oui, très bien, tant mieux, on a des gens jeunes et motivés, eh bien, mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas tous comme Brad Pitt ou Angelina Jolie? Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Donc, des acteurs qui prennent 10 kilos, 20 kilos pour un rôle, et puis on les revoit 3 mois après, et ils sont fins comme ça, ils sont extraordinaires. Pourquoi est-ce que l'ouvrier qui est à la régie Renault, à Aulnay, il ne ferait pas pareil? Enfin, je veux dire, c'est PSA, pardonnez-moi. Ça, c'est vraiment un crime de lèse-majesté. Je m'excuse auprès des gens de PSA présents dans la salle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui réussissent à vivre sainement. Et c'est très simple pour eux. En fait, ils payent des coachs. Des coachs alimentaires qui viennent les voir tous les jours, des coachs sportifs qui viennent les engueuler. Alors, bien sûr, quand c'est une grande star, on dit « Ah bah, c'est très bien de se payer un coach ». Maintenant, si jamais quelqu'un réussit à avoir des outils, alors d'abord il achète une méthode, et puis si jamais ça peut lui simplifier la vie d'avoir un coach mobile qui coûte pas cher, on dit « Ah, c'est infantilisant ». En revanche, Angelina Jolie, ah oui, elle a vraiment du caractère, elle se paye un coach. Ce qu'on est en train de voir, c'est que ces outils-là permettent une démocratisation, un accès simplifié à des comportements sains, et quand on dit « c'est surveiller et punir », on porte un regard extrêmement biaisé, parce que pourquoi ne pas dire on donne les moyens aux individus de se reprendre en main? Dans ces plateformes Patients Like Me, qui permettent à des gens qui sont atteints de maladies graves d'échanger sur leurs symptômes, de réussir à savoir quels sont les protocoles, les trucs qui vont leur permettre de ne pas avoir de nausées pendant les chimiothérapies, d'échanger énormément d'éléments qui vont améliorer grandement leur qualité de vie, mais il se trouve que les médecins n'ont pas forcément le temps de s'en occuper ou l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de développer un contre-pouvoir des citoyens qui se réapproprient la santé par ces outils-là. Alors bien sûr, ils deviennent dépendants des outils. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, donc c'était la mode des Walkman. Il y avait des Walkman partout. Alors bien sûr, la plupart d'entre vous ici êtes trop jeunes pour avoir connu cette étape-là. Donc, il y a des gens aussi qui faisaient l'amour avec un Walkman sur les oreilles. On disait que c'était scandaleux. Voilà, on était dépendants. Et puis les iPhones, c'était pareil. Maintenant, 15 ans après, 20 ans après, qui parle des Walkman? Qui dit, voilà, le Walkman, c'était un ombilic absolument atroce, la décérébration. On a des outils qui permettent à beaucoup de gens, justement, d'échapper à une forme de déterminisme social. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens deviennent obèses? Mais tout simplement parce qu'on utilise leur temps de cerveau disponible pour les bombarder d'une multitude de messages sur des aliments hypercaloriques, gorgés de perturbateurs endocriniens et je ne sais quoi, et pas cher en plus, enfin, mais sauf que ça finit par coûter très cher en coût de santé. Donc tous ces systèmes-là, en fait, c'est des systèmes qui aliènent l'individu, on fournit des éléments qui permettent, qui donnent une chance aux individus, aux citoyens qui dématisent des coups, et ce serait surveiller et punir. Mais où est l'aliénation? Où est la reprise de pouvoir? Où est l'empowerment? C'est une vraie question qu'on se pose. C'est sûr que les entreprises, ce ne sont pas des enfants de cœur, elles voient arriver cette explosion des coûts de santé. Elles vont effectivement donner un coup de main aux salariés pour essayer de se débrouiller et de limiter ces frais de santé. Mais de toute façon, si on ne passe pas par la prévention, il y a bien un moment où plus personne ne pourra payer ses frais de santé.
Soisic Leclerc, je suis consultante en ressources humaines indépendante. J'ai beaucoup apprécié la dernière intervention. J'adhère beaucoup à ce qui a été dit. Et à
qui venait du cœur. Hein.
Beaucoup d'autres choses aussi. Mais j'ai quand même, moi aussi, des craintes. Voilà, parce que les Américains, c'est les Américains. Et on n'est pas comme les Américains. Donc, en particulier sur le terme de responsabilisation qui a été souvent employé ce soir. Bon, bah, moi, j'ai aussi entendu, moins souvent, mais quand même, infantilisation. C'est quand même un peu ce qui vient à l'esprit, on va dire, même si ce n'est pas forcément ce qui va arriver, mais c'est un peu ce qui vient à l'esprit aussi. Et je suis contente d'entendre aussi parler de désir ou d'envie, hein, d'envie d'utiliser ces outils, parce que si on n'a pas envie de les utiliser, ce sera une mode comme une autre. Hein. Elle passera et on trouvera d'autres choses derrière. Voilà.
Alors, si je puis réagir rapidement, je ne sais pas si vous aviez vu ce film qui s'appelle Thank You for Smoking, qui montre l'action du lobby, justement, cigarettier américain. Et on se rend compte que le principal argument de ces lobbies, et qui fonctionne très bien, c'est de dire, mais chacun doit être libre de pouvoir fumer. Chacun peut bousiller sa santé, en gros. C'est-à-dire que dans les sociétés libérales, il est quand même très fréquent que l'argument de la liberté soit instrumentalisé pour aliéner les individus. Donc cette question, effectivement, de l'infantilisation ou au contraire de la liberté est très délicate. Et c'est vrai que cet ouvrage qui s'appelle « Le petit traité du bonheur 2.0 », donc nous l'avons écrit en hommage indirect, choisi ce titre, en hommage indirect au petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, écrit par Joule et Beauvois, qui sont des psychologues sociaux, et qui ont fait une démonstration implacable montrant que la meilleure manière de manipuler les individus, c'est de leur déclarer qu'ils sont libres. Et d'ailleurs, il y a un ouvrage dont on parle beaucoup moins, ce qui s'appelle le petit traité de servitude libérale, qui montre que tout ce discours libéral sur la liberté et la responsabilité des individus, effectivement, peut être complètement retourné dans des rapports de domination sociale que Bourdieu n'aurait pas décrié. Vous avez raison de soulever ces sujets-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais il y a énormément de procès d'intention d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, il faut voir quels sont les impacts en termes de FISOE. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que quelqu'un qui fume, eh bien, en moyenne, il a 8 ans d'expérience de vie de moins que les autres. Quelqu'un qui fait 30 minutes de marche par jour, il a 4 ans d'espérance de vie que les autres. Donc, qu'est-ce que c'est ces 4 ans ? 4 ans de plus. Donc, c'est simplement le fait de voir grandir ses enfants, ses petits-enfants. Il y a des situations très concrètes dans lesquelles on laisse les gens bousiller leur vie. Et bien sûr, on peut dire qu'ils sont libres, on les infantilise, etc. Mais ça pose des vraies questions. De quel droit laisse-t-on les personnes s'engager dans ces voies-là ?
Jean-Yves Barbier.
Oui, Jean-Yves Barbier, professeur, chercheur, entrepreneur. Est-ce que vous avez porté votre regard sur le mal-être au travail ? Je veux dire, est-ce que vous avez pu identifier des études qui font un espèce de hit parade des plus mauvaises pratiques, celles qui sont à la source du mal-être au travail ? Et donc, est-ce que vous pourriez nous dire si on a des pratiques à éliminer tout de suite ? Et puis, deuxième question, est-ce que vous avez pu identifier, si ça existe, là aussi, des secteurs d'activité ou des entreprises qui seraient particulièrement génératrices de mal-être au travail ? Je me souviens que Jean-Baptiste, tu avais travaillé sur les call centers et je crois que tu avais qualifié ces call centers de mine de sel. Voilà.
Non, il avait fait un exposé mine d'or ou mine de sel. Call center, ça crée des emplois, mais est-ce que ce ne serait pas des mines de sel ?
Alors, ces pratiques ou ces organisations du travail qui créent du mal-être, effectivement, bon, elles sont documentées, elles sont connues, enfin, ça fait quand même assez longtemps. On pourrait parler de la contrainte paradoxale, ça c'est quand même assez vieux. En fait, dans cet ouvrage, on s'est posé la question de savoir non pas ce qu'il fallait supprimer, mais plutôt ce qu'on pouvait faire de positif. Et c'est vrai que, par exemple, on a comparé, il y a des études, c'est pas nous, hein, des études menées sur des dizaines d'entreprises qui comparent l'impact, par exemple, des programmes de massage sur le stress par rapport à des thérapies cognitives en ligne, donc où on offre sur extranet effectivement des ressources pour que les gens puissent prendre du recul, enfin un peu comme les bouquins de self-help ou développement personnel qu'on trouve, qui sont beaucoup moins à la mode en France qu'aux États-Unis. Et on s'aperçoit que, en fait, les programmes de massage relaxants, ça ne soulage pas tellement le stress des individus. Et puis, ça n'est pas durable. Les thérapies cognitives en ligne, ça a des résultats qui sont positifs. Et puis, les programmes d'exercice physique, ça fonctionne bien aussi contre le stress. Dans multiples études, on s'est rendu compte de pas mal d'effets de bord ou complètement inattendus. Ou alors sur les seniors, on n'en a pas parlé ce soir, mais il y a un vrai sujet aussi sur le vieillissement et la capacité des employeurs à accompagner une population de salariés qui va vieillir au travail. On s'est rendu compte, par exemple, que faire des balades sur un vélo d'appartement, mais des balades virtuelles face à un écran d'iPad dans lequel vous baladez dans un univers virtuel, eh bien, ça a pour faculté de ralentir de manière très surprenante le déclin cognitif. Parce que, apparemment, si jamais vous avez une activité cardiaque, une circulation sanguine, en même temps que vous vous forcez à avoir un exercice intellectuel d'utiliser votre sens de l'orientation, eh bien, ça a des effets qui sont inconnus. Donc, on est en train de découvrir tout ce champ qui est complètement surprenant, relativement inconnu, qui s'appuie quand même sur les sciences cognitives. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a en France une sorte de bataille sur ces sujets-là qui transpose une autre bataille. C'est-à-dire que les écrans, ils sont extrêmement utiles dans le traitement des phobies, par exemple. Des phobies, de la schizophrénie, des stratégies de remédiation cognitive. Mais les gens qui font ça en France ou aux États-Unis, ce n'est pas la même école que ceux qui ont soigné des phobies pendant des thérapies sur un divan pendant une dizaine d'années pour savoir quelle était vos relations avec votre père ou avec votre mère. C'est-à-dire que ces thérapies cognitives, ces thérapies qui s'appuient aussi sur des écrans, elles se situent complètement à contre-courant du mouvement de la psychanalyse. Donc, aux États-Unis, on n'a pas du tout le même rapport de force entre ces différentes écoles qu'en France. Mais il faut voir que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement présent dans le débat qu'on a aujourd'hui.
Je voudrais juste amener un complément qui va être très décalé, mais auquel je tiens. On adore, finalement, vous l'avez compris, collectivement, diaboliser les technologies pour une raison très simple, c'est qu'en général, on ne les comprend pas bien et qu'on redoute d'avoir à constater qu'on les utilise si mal. Donc, sans doute, c'est bien de projeter vers l'autre le fait que c'est vraiment le mal absolu. Donc, on les diabolise et en même temps, on idéalise le travail, ce n'est pas une pique, hein, le travail d'avant, pour lequel j'ai le plus grand respect. Est-ce que par hasard, le numérique n'a pas totalement changé le travail d'ores et déjà? Est-ce que les gens qui sont très mal au travail aujourd'hui sont aussi, alors c'est vrai des patrons, mais c'est vrai des gens, absolument pas réfléchis à ce qu'est le travail aujourd'hui? Il y a des chercheurs qui ont mis des petites caméras sur les épaules de managers. Ils les ont pris à 7h30 du matin, ils ont enlevé la caméra à 21h30. Et on a demandé aux gens, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Très ennuyeux comme question. J'ai rien fait, je ne sais pas me rappeler de ce que j'ai fait. Ils n'ont pas arrêté de la journée, ils n'ont pas arrêté de recevoir des messages, de les envoyer, etc. Est-ce que par hasard, nous ne sommes pas de plus en plus en train de router? On ne fabrique plus rien, on route. Alors, quand on pense que ça m'empêche de faire mon vrai travail, alors forcément, on le vit mal. Si on se dit, c'est ça, c'est mon travail d'aujourd'hui, et reconnaissons que ceux qui font ce type de travail sont plutôt mieux payés que des OS classiques, ah bah peut-être qu'on va trouver du sens et se dire, bah après tout, ouais, c'est mon boulot. Mais attendez, de toute façon, les gosses, eux, ils étudient comme ça. Hein, donc en gros, moi, quand j'écoute ma fille, t'as fait tes devoirs pour demain, non, mais c'est pas grave, de toute façon, on est sur Facebook tout à l'heure, et puis on va faire un peu de copier-coller, un peu de machin. On fait plus un truc de A à Z, ça c'est sûr. Donc ils savent plus le faire, ils sauront plus le faire dans l'entreprise, c'est certain. Mais peut-être que ça tombe bien, parce que peut-être qu'on n'en a plus besoin. Mais c'est très difficile de vivre une représentation du travail qui n'est plus du tout celle qui est celle d'aujourd'hui. Et ça interpelle évidemment les organisations et les patrons qui n'ont sûrement pas compris grand-chose. Mais on n'est pas mieux lotis, tous autant qu'on est. Est-ce qu'on a vraiment pris la mesure de cette technologie qu'on adore diaboliser et ce travail d'avant, avec la qualité, quand on avait du temps, etc. Bon, enfin, de qui se moque-t-on? Enfin, on peut documenter tout un tas de travaux qui n'étaient pas si bien que ça et avec des gens qui avaient de vraies souffrances au travail. Bon, c'était une digression, mais j'y tenais.
Vous connaissez le slogan de l'École de Paris, le management est une affaire sérieuse, il faut en débattre. Ce soir, c'est le bonheur numérique qui est une affaire sérieuse, il faut en débattre.
Oui, je m'appelle Liliane Bézard, j'appartiens à la société Plénitude. Je voulais juste une question très concrète, là, Plénitude, maintenant, c'est... parce que j'imaginais... En revenant à ce que disait M. Henrion, ou ce que vous avez dit, vous avez sur votre ordinateur une petite alerte toutes les deux heures pour vous dire, bon, stop, il faut faire quelque chose d'autre, c'est ça?
Il faut se lever, il faut bouger.
Et donc, je me demandais, est-ce que c'est sur votre ordinateur à vous ou est-ce que votre société l'a mis sur tous les ordinateurs? Et deuxièmement, si ce n'est pas le cas, j'imaginais toutes les controverses qu'il pourrait y avoir sur cette histoire-là, qui pourtant peut être intéressante.
Non, c'est tout le monde, mais pour être honnête, c'est un peu piégeux parce que c'est une espèce en réalité d'écran d'accueil. Et donc, il se met en route que si vous ne vous servez pas de votre ordinateur. Donc, si vous êtes en permanence devant, bah, l'écran de veille, effectivement, il se mettra pas en route puisque vous serez toujours sur Excel ou Word ou que sais-je. Comme moi, je fais moins d'ordinateurs que d'autres, mais j'ai plus de temps en réunion. C'est vrai que vous avez eu l'occasion de le voir pendant notre entretien l'autre jour. Donc non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et effectivement, ce qui est assez rigolo, si on peut dire, c'est que si on est amené à faire autre chose et pas être derrière son écran, à un moment donné, donc ça switch et on passe sur cette espèce d'écran de veille. Donc ça alerte l'œil et on voit en effet un petit bonhomme en dessin animé vous expliquer qu'il faut se tenir droit sur sa chaise, que c'est bien de se lever quelques minutes pour faire un peu de stretching ou juste marcher dans son bureau quand on a la chance d'en avoir un. Et puis qu'après, on peut revaquer à ses affaires. Évidemment, comme toujours, au bout d'un moment, on ne le voit plus. Hein. Bon, ça, il faudrait changer le petit bonhomme tout le temps, peut-être par des scénarios différents. Mais en tout cas, oui, ça fait partie du développement des outils informatiques, donc tout le monde l'a.
D'accord, merci.
Oui, non, j'étais très admiratif là, de la démonstration de Jean-Baptiste Stuchlik, là, qui nous avait convaincu que...
S'il fallait trouver un gourou.
Oui,
hein,
oui c'est ça, que la vraie liberté, enfin, je veux dire que... des personnes retardataires voulaient empêcher les gens de cesser de fumer, de cesser d'être obèses, etc., etc. Alors évidemment, bon, avec ce genre de discours, on est très convaincus. Non, mon propos, c'est pas du tout d'être hostile au progrès. C'est pas du tout ça. D'autre part, ces systèmes-là peuvent être utiles dans un certain nombre de cas, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand on délègue la responsabilité du suivi à des collectivités ou d'autres personnes. Ce qui a été indiqué, c'est ces groupes extérieurs, etc. Alors, comme le sujet aujourd'hui, c'est le bien-être au travail, j'imagine que certaines entreprises, bien sûr pas la Lyonnaise des Eaux, et l'exposé de M. Henrion était exemplaire à cet égard, hein, mais que certaines sociétés soient tentées de mettre en place de tels systèmes. Ça figurait dans l'exposé où on voyait la comptabilité qui luttait avec la DRH sur un certain nombre de choses pour savoir celui qui va faire... qui va respecter le fait de se lever toutes les deux heures, ou alors qui va faire les petits exercices de yoga qui sont recommandés, etc., etc. Et tout ça, donc, sous l'égide du Big Brother de la compagnie. C'est ça qui me paraît inquiétant. Ce n'est pas les outils par eux-mêmes. Encore une fois, quand il y a un progrès, il ne faut pas s'inquiéter avec un principe de précaution en disant ben, on ne va rien faire parce que, de toute façon, il y a toutes sortes de questions qui restent posées. Mais en même temps, avoir une acceptation trop systématique de ces outils peut présenter des risques parce qu'il peut y avoir des personnes ou des organisations mal intentionnées qui les orientent dans un sens qu'on peut regretter après, ultérieurement. Et encore une fois, le sujet entreprise, c'est quelque chose qui personnellement me préoccupe.
On est forcément d'accord avec vous. Il est absolument certain que quand on voit sur des plateformes américaines comment sont obtenus les $200 en question par tête, bon, en gros, c'est le groupe des gens les plus à risque qu'on arrive à diviser par deux. D'accord ? À partir du moment où on commence à isoler les gens les plus à risque, qu'on sait coûter 10 à 20 fois plus cher que les autres, on entre dans quelque chose qui est effectivement un peu... préoccupant, on est obligé de partager votre point de vue.
Bonjour, donc Céline Derrien. J'ai écouté avec attention les nombreux exemples que vous nous avez donnés. Alors, je ne fais pas du tout allusion aux exemples de M. Henrion, mais à ceux que vous avez donnés dans votre livre Bien-être 2.0. Je suis un petit peu ennuyée parce que j'ai l'impression que peut-être on passe d'une certaine manière à côté du problème. Alors, pour moi, j'oppose bien-être à souffrance au travail. Et la souffrance au travail, bon, je vois toutes ces applications qui sont vraiment dirigées sur des choses qui me paraissent un tout petit peu superficielles peut-être. Et je vois également les personnes qui effectivement sont en souffrance au travail pour des raisons avérées comme du harcèlement et autres, mais également tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à trouver du sens dans leur activité au quotidien. Toutes ces personnes, elles n'arrivent pas forcément à mettre des mots sur ce qui se passe, sur leur mal-être. Et puis là, quand on n'arrive pas à mettre des mots, parfois, on se tourne vers soi-même et puis on se regarde, puis on se trouve patraque, trop gros, pas bien dans sa peau. Et j'ai l'impression un petit peu qu'avec tous ces outils, lorsqu'ils relèvent de la vie privée, c'est une chose. Mais lorsque l'entreprise y met son grain de sel, j'ai un petit peu l'impression de voir une sorte de déresponsabilisation de l'entreprise qui, pour ne pas avoir à adresser les problèmes qui relèvent réellement de sa responsabilité, essaye de dire aux gens, non mais attendez, il n'y a pas de problème de management, on n'a pas des conditions de travail trop pénibles à cet endroit, c'est juste, regardez, ça vous ferait du bien de faire un peu de sport pour oublier vos soucis. Alors je suis un petit peu ennuyée, voilà, je voulais avoir votre sentiment sur le sujet.
Alors il y a effectivement un vrai sujet sur la responsabilisation ou la déresponsabilisation. En fait, il y a toute une partie des sujets dont on parle, où la responsabilité de l'entreprise est en train d'être mise en cause, alors que ce n'était pas le cas par le passé. La sédentarité. Vous imaginez que dans quelques années, un certain nombre de salariés qui pourront faire des procès à leur employeur en déclarant « vous m'avez obligé à rester assis pendant des heures, pendant 15 ans, 20 ans, maintenant j'ai un diabète de type 2, j'ai de l'hypertension, etc. » Comment est-ce que vous allez me dédommager ? Est-ce qu'il y a 50 ans ou 60 ans, on aurait imaginé que les gens fassent un procès à cause de l'amiante ou l'exposition des facteurs professionnels ? Ce que je veux dire, c'est que l'entreprise est de plus en plus mise sur la sellette sur des sujets, des conditions dans lesquelles elle oblige le salarié à travailler. Donc là, on a parlé de la sédentarité. Quand vous parlez des situations de souffrance au travail et de harcèlement, on sait qu'une des caractéristiques du harcèlement, en tout cas et de la souffrance qui en résulte, c'est l'isolement du salarié, puisque le salarié peut avoir tendance à se renfermer sur lui-même, et puis les autres salariés dans l'entourage immédiat sont gênés de voir, et ça aboutit à une stigmatisation. Il y a une spirale négative qui arrive sur le plan de l'isolement. Donc là aussi, en fait, si jamais on réussit à montrer, d'ailleurs il y a eu des reportages récemment sur des suicides sur le lieu de travail qui mettaient directement en cause l'organisation du travail, qui aboutissait à un isolement des salariés et ensuite un risque suicidaire plus important. Si l'entreprise réussit à être responsabilisée parce qu'elle risque d'être prise en cause sur ces sujets-là, là aussi, on peut mettre des dispositifs qui vont recréer des réseaux de soutien en interne. Enfin, il y a d'autres exemples où la responsabilité de l'entreprise peut ainsi être mise en cause. On parlait du sens, effectivement, c'était le dernier point qui manquait. C'est très intéressant de voir que ces technologies, on en parle également dans l'ouvrage, c'est un moyen pour pas mal de personnes de remettre du sens. Donc, la Frédéric Henrion nous a parlé de la communauté sur intranet, sur le développement durable. Donc, il y a pas mal de seniors qui réussissent à se maintenir dans la société, soit en participant à des initiatives en ligne avec Amnesty International, des organisations caritatives, du volontariat. Il y a des systèmes aussi un peu de 2.0 qui mettent en relation des personnes âgées seules avec des familles qui ont besoin de trouver des gens pour faire la sortie des écoles. En fait, il y a toute une manière de faire, d'utiliser ces outils-là aussi pour recréer du sens. Alors parfois en collaboration avec l'entreprise, parfois de manière subversive, mais c'est quelque chose que les individus peuvent vraiment s'approprier.
Sur le sens, une bonne partie de pourquoi il n'y a pas forcément beaucoup de sens dans l'entreprise, c'est parce que le management intermédiaire n'a plus conscience du sens, parce que la direction haute n'a plus non plus beaucoup conscience du sens. Moi, je veux bien qu'on m'explique comment on remet du sens dans un capitalisme comme ça. Si on commence par ce prérequis-là, je pense qu'on va accumuler les rapports, ce qui est le cas. On a des rapports sur le bien-être au travail ou des connotations identiques qui s'accumulent année après année. Moi, très clairement, je ne sais pas comment on peut conseiller à des entreprises, des grandes entreprises, de redonner du sens quand on a vraiment de plus en plus un problème de sens. Ok, très bien, mais quand on a dit ça, c'est quoi le diagnostic profond qui est derrière ? On est dans un monde qui est de plus en plus compliqué à analyser, c'est vrai.
On a fait une séance d'un séminaire à l'École de Paris, Économie et Sens, avec Yves Clos, le psychologue du travail, qui disait que pour lui, c'était un peu des palliatifs, tout ça. Mais on fera une autre séance avec Yves Clos. On va passer la parole à Gilbert Leroy, qui a initié la séance sur la santé au travail il y a quelques années.
Oui, je vais initier santé et travail. Nous avions eu d'ailleurs à l'époque un exposé de M. Salingro.
Oui, avec M. Salingro.
Je voulais simplement faire la remarque, on ne vous a pas entendu parler des syndicats. Et je crois que c'est important, les syndicats existent en France, et ils ne cherchent qu'à progresser, et je pense que ça serait bon de faire un effort vers eux. Et deuxième chose, je voulais parler à votre sujet, monsieur, vous avez parlé de production, de quantitatif, et de qualitatif. Surtout pas mettre l'un contre l'autre. Aujourd'hui, il faut faire les deux. Et je pense que vous y avez réussi, et vous ne nous avez pas expliqué comment. En 70 ans, là, vous avez connu tous les changements, et vous y avez fait face, et j'ose espérer que votre personnel est heureux au travail. Il n'y a pas que des gens malheureux au travail. Attention, regardez bien les statistiques, les questionnaires. Il y a plus de trois quarts des gens qui disent qu'ils sont heureux au travail. Mais on ne parle pas que des bureaux. Là, on parle trop des bureaux. Il y a bien d'autres gens qui produisent et autres, et ce ne sont pas les bureaux. Et puis, dernière chose, pour le sport, il y a un sport en France qui est un modèle, aussi comme la natation, c'est le judo. Le judo, on prend les gamins à 6 ans et vous avez des champions olympiques. Vous ne croyez pas que ce sont les mêmes gens qui sont en haut et en bas, mais ils travaillent ensemble.
Vous avez une très belle séance de l'école de Paris sur le judo en France.
Un mot de réponse. C'est vrai que je n'ai pas parlé des syndicats parce que je n'ai pas parlé d'un sujet de mal-être au travail qui est le principal des sujets de mal-être au travail, qui est l'alcoolisme. Pendant 5 ans récemment, on m'a chargé bénévolement de travailler sur les sujets d'addiction à l'alcool et aux drogues. Pour les drogues, ce n'est pas très compliqué. C'est une affaire de jeunes. Ça doit être traité par les moyens qui ont été développés aujourd'hui et si possible de manière ludique. Tous les essais que nous avons faits pour développer sur le web des activités ludiques anti-addiction à la drogue ont été révélés positifs. Pour l'alcool, on m'a dit « vous ne pouvez pas y toucher, les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers sont contre ». On est passé outre. Résultat, il y a un an et demi, nous avons fait un colloque sur l'alcoolisme au travail. Il y avait 650 personnes dans la salle. C'est dire si tout le monde avait répondu, mais évidemment, à condition qu'on n'en parle pas dans les grands médias, pour ne pas chatouiller tous les gens dans les syndicats patronaux et dans les syndicats ouvriers qui sont hostiles. Même d'ailleurs au niveau de l'État, ne serait-ce que pour interdire ce que certaines entreprises refusent, interdire de mettre dans les règlements intérieurs des obligations de prévention et de détection des comportements alcooliques nuisibles. Donc vous savez, c'est un sujet comme celui qui a été abordé ce soir est un sujet d'une extrême complexité.
Alors je m'y attendais un peu, nous n'avons pas réussi à complètement épuiser le sujet ce soir. Vous êtes un tout petit peu tourneboulé par tout ce qui s'est dit d'un peu contradictoire. Une clarté reviendra quand vous lirez le compte-rendu que rédigera Pascal Lefebvre. La prochaine séance aura lieu le 3 juin.